Est-ce que vous avez lu un livre qui était tellement passionnant, il y avait tellement d'intrigues, que vous avez eu du mal à le poser sur l'étagère? Et puis, en dévorant ce livre, vous êtes arrivé enfin au dernier chapitre, les dernières pages. Et puis, pour une raison ou pour une autre, c'est comme toute personne vous appelle, il y a tout empêchement possible dans le monde qui vient tomber sur vous afin que vous êtes arrêté tout court et vous ne pouvez pas terminer ce livre. C'est frustrant, n'est-ce pas? Alors, quelque part, je partage cette même impatience pour terminer ce livre avec vous, tellement c'était passionnant, tellement que ça me touche. Daniel est un de mes favoris, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Et nous aimerions bien terminer notre étude sur le livre de Daniel avec un regard plutôt linéaire sur ce chapitre. Il y a des thèmes qu'on peut soulever dans le texte. Et on peut en faire beaucoup d'études et je pense qu'on va garder ça peut-être pour une autre fois parce qu'il est tellement riche. Mais quelque part aussi, Daniel chapitre 12 est la fin d'une conversation entre Daniel, quelques anges et Jésus-Christ avant son incarnation. Il y a donc une ambiance très spécifique que je voulais pas mettre à côté. Alors, oui, nous allons parler des choses juste avant la fin du temps. Nous allons parler aussi du plan de Dieu pour Israël, ainsi que la résurrection des morts. Et nous allons aussi parler de comment nous lisons la prophétie. En fait, tous ces sujets-là, je crois que ce sont des choses qu'on attend, justement, si on était en conversation avec des anges, n'est-ce pas? Eh bien voilà, le contexte, c'est encore la fin de cette conversation tellement importante, une conversation qui parle même de notre temps. Alors sans plus de paroles d'introduction, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Daniel chapitre 12, s'il vous plaît. Verset 1. En ce temps-là, soulèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, donc Israël, le peuple de Daniel, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à ce que cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alors, première chose, c'est identifier ce que ça veut dire ce temps-là, parce que c'est répété plusieurs fois. Alors, ce temps-là, dans le passage, en fait, ça fait référence à chapitre 11, à la fin, lorsque nous avons parlé de l'Antéchrist, ce dernier homme qui est animé avec la puissance de Satan et qui agit et qui est aussi en quelque sorte un résumé de tout ce qui est de mauvais et de maléfique dans l'homme et de ses gouvernements. Lui qui monte ses campagnes militaires contre le peuple juif et qui fait beaucoup d'autres grandes choses terribles. Alors ce temps-là, ça fait partie de l'Antéchrist et ses projets destructeurs. Alors Michaël, qui est-il? Il est l'archange, l'archange sur Israël. Au début de cette conversation, au chapitre 10, nous avons vu que Daniel parlait avec un autre ange qui s'appelle Gabriel. Et puis il parlait de Michaël, qui était le seul qui le secouait, qui était avec lui et qui se tenait pour le peuple d'Israël. Michaël se lève donc à leur défense à la fin des temps. Et ça, à cause du mal que l'Antichrist envisage sur Israël. Alors, si vous n'étiez pas avec nous pour l'étude sur Daniel chapitre 11 et 10, peut-être ça serait bien que vous consultiez justement ces études sur le site, parce que ces choses-là sont déjà expliquées. Mais pour vous dire, cet homme, il a des plans absolument effrayants où il veut détruire le peuple de Dieu et en fait toute personne qui veut suivre le vrai Christ. Mais cet ange, il se lève pour eux. Et ça me fait rappeler de notre verset que nous avons en Hébreux 1, verset 14, qui nous décrit ce que font justement les anges et leur ministère. Et je pense que c'est important parce que souvent on a des idées un peu floues sur le sujet. Et les anges, en fait, sont des serviteurs pour le peuple de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et regardez ce qui est dit. Ne sont-ils pas tous des esprits de service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Alors si vous êtes en Christ, si vous êtes sauvés, Dieu envoie ses anges pour nous protéger aussi. Mais Michael, il est donc l'archange, c'est un petit peu comme un général dans l'armée, il est envoyé pour protéger le peuple de Dieu. Et Michael, il se lève en défense d'Israël. À cause de cette grande tribulation, mot technique, mot théologique, mais mot aussi qui vient de Jésus. C'est de là où nous avons ce mot. Lorsque Jésus y cite notre verset en Daniel 12, là, en Matthieu 24, verset 21, c'est Jésus qui dit que ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Jésus l'appelle une grande tribulation. Et c'est ce que c'est. Parce que c'est une période où Dieu se souvient de son alliance avec Israël, donc une bonne chose, là où il est leur Dieu et eux, ils sont son peuple. Cette alliance, cette promesse qu'il a fait qu'ils ne les oublieront jamais. Donc il revient et pour que, justement, il revient à lui, il permet un temps d'angoisse qui est pire que tous les autres. Il permet que ça les touche afin qu'il revienne à lui. Nous voyons, c'est grave, c'est triste, mais le but de Dieu, c'est qu'il revienne à lui. Et ça, c'est pourquoi il parle du salut. Le salut de ceux qui vont se tourner vers lui, ceux qui sont écrits dans le livre. Et déjà, il y a un peu qui ont déjà souffert. Enfin, en fait, excuse-moi, si nous faisons une petite histoire du monde avec toutes les différentes nations qui ont souffert, il n'y en a pas beaucoup qui ont souffert comme Israël, qui a été persécuté et contre qui pratiquement tous les royaumes de la terre ont, dans une manière ou d'une autre, ont essayé de l'éliminer. Les Babyloniens ont essayé, même en Perse, il y avait l'histoire d'Esther. Les Grecs ont essayé avec Antiochus IV. Et les Romains, bien sûr, dans les diverses persécutions. Même plus tard, l'Église a essayé aussi de le faire. C'est tellement triste, surtout quand nous pensons à ce qui s'est passé au plein milieu du XXe siècle. Là, on se croyait tellement évolué. Pourtant, cette dernière épreuve, il dit, sera le pire, tel qu'on n'a jamais vu sur Terre. Tellement horrible que aussi en Matthieu 24, lorsque Jésus en parle, il dit que lorsque le signe qui va annoncer que ça va se passer, lorsque ça arrive, il ne faut même pas aller chercher son manteau, mais il faut vite partir. Un temps difficile. Un temps qui est aussi appelé le trouble de Jacob. Mais ce sera aussi un temps de réveil. Si vous êtes à Daniel 12, vous êtes aussi pas très loin d'Osée, le prochain livre. Alors tournez avec moi en Osée 5, verset 15. C'est l'Éternel qui parle et dit, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Encore l'Éternel qui parle, il dit, « Je m'en vais, je reviendrai dans ma demeure. » Ça fait penser à Jésus-Christ en Jean 14 à 16, lorsqu'il parlait de ce même langage. Mais notez ce qu'il dit après. Il dit, « Je m'en vais jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. » Qui ? Israël. C'est-à-dire, ils vont admettre leur faute. Quelle faute ? Avoir rejeté le Christ. Le Christ qui s'en est allé et qui est dans sa demeure avant qu'il ne revienne. Donc, nous allons voir que, même en Osée, nous parlons d'un retour à Christ. Eh bien, regardez aussi en Zacharie, chapitre 12, verset 2, il dit, « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. » Donc, notre signe de la fin des temps, c'est qu'il y aura Jérusalem qui est le centre de tous les problèmes du monde. Et nous voyons qu'on n'est pas très loin. Et puis, si nous sautons à verset 10, nous lisons, « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » C'est qui parle là? C'est l'Éternel. Mais il parle de celui qui les ont percé. Jésus-Christ. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Même en Zacharie, nous voyons encore une autre prophétie qui parle de comment Israël va retourner vers Christ. Et puis en Daniel, le passage continue. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors avec ceci, l'ange révèle à Daniel une chose assez importante, c'est qu'à la fin de la grande tribulation, où Jésus revient glorieusement en puissance avec ses saints derrière lui pour régner, comme en Apocalypse chapitre 19, nous lisons donc qu'il y aura une résurrection. Et justement, après ce chapitre 19, qui donne beaucoup d'espoir pour les chrétiens, en voyant que Jésus revient en puissance et en gloire, le prochain chapitre, donc Apocalypse chapitre 20, verset 4, nous lisons dans la chronologie des choses, « Et je vis des choses, et à ceux qui s'y assirent furent donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur leurs mains. Et ils revinrent à vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » En fait, les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont parti à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Si nous prenons ces 1000 ans à la lettre, comme pour dire pour un temps littéral après le retour de Christ, puisque chapitre 20 suit chapitre 19. Et aussi nous voyons dans la chronologie, verset 1 de Daniel 12, où nous parlons de la tribulation. est suivi par verset 2 où nous parlons de la résurrection. Nous voyons la même chose. C'est que cette résurrection vient donc après. Et la Bible, il faut le dire, parle en fait de deux résurrections. Vous avez vu, même en Daniel, on parle de ceux qui ont été justes et des injustes. Qui sont les justes? Ce sont ceux qui ont refusé donc la bête et tout ça, mais c'est encore plus. Qui est juste, selon la Bible? C'est toute personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, dans sa perfection totale, puisqu'il est le centre de tout, et il est le Seigneur de tous, en fait, c'est lui qui, par obéissance à son Père, s'est dépouillé de sa majesté et s'est revêtu de la chair humaine, et par obéissance, est allé jusqu'à la mort qu'il n'a pas méritée. La mort sur la croix qui était en fait le sacrifice. En fait, c'est nous qui avons mérité justement ceci. Mais il s'est donné en tant que rançon pour nous. Ceux qui donc croient en lui, au lieu de mériter quelque chose devant Dieu, ce sont ceux qui sont justes et qu'on le verra dans la première résurrection. Les injustes sont plutôt ceux qui refusent Christ, ceux qui ne veulent pas accepter la justice de Christ. Alors, ce sont eux qui vont être soumis à la deuxième résurrection, là où ils seront jugés selon leurs œuvres. Et puisque le standard, c'est Christ. Puisque la perfection est montrée en Christ et ils l'ont refusé parce qu'ils ne l'ont pas voulu, il faut que leur vie maintenant soit en comparaison avec lui. Et puisque personne n'est à la hauteur de la perfection de Christ, ils seront ressuscités pour entrer dans l'enfer. L'enfer qui, comme Daniel a dit, c'est l'éternelle angoisse. C'est le grincement des dents. C'est la séparation pour l'éternité avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, la Bible ne parle pas d'un anéantissement de l'âme après la mort. Non. La Bible parle de l'effrayante réalité du lac de feu, l'enfer qui a été créé pour Satan et ses anges, mais où toute personne qui ne met pas sa foi en Christ iront par leur propre choix, par leur propre volonté, puisqu'ils ont refusé celui qui a tout fait pour les sauver. Alors, dans cette résurrection des Israélites et des non-Israélites, il va avoir pas seulement des gens de l'Ancien Testament, mais il va avoir aussi des gens de la nation juive qui croient en Christ. Parce qu'il y a toujours un reste de ceux qui croient en lui. Dieu n'est pas fini avec Israël, mais il a un plan pour eux. Or, ceux qui seront dans la première résurrection, quoi que soit sa naissance, il y sera seulement parce que il était né de nouveau. Il est devenu enfant de Dieu par la foi en Christ. Et verset 3, ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui ont auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. La récompense éternelle, c'est Jésus. Il suffit largement, je dirais. Mais parce qu'il est si bon, il donne aussi des dons. Il est bon comme ça. Et oui, d'accord, nous ne méritons rien, oui, mais il y a une certaine gloire ou honneur qu'il va donner à ceux qui ont enseigné les autres dans la justice. Les évangélistes, les pasteurs, les moniteurs de l'école du dimanche, les mères et les pères, les grands-mères qui ont enseigné les autres dans les voies de Christ. Il y a des récompenses pour ça. Et c'est intelligent, il dit. Mais aussi, je pense surtout que comme Christ a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et ajouter à ceci le fait qu'il donne beaucoup d'honneur à cette pauvre veuve qui a donné ses deux petites pièces dans les trésors du temple. Je ne serais pas du tout surpris de voir ce jour au ciel-ci, il n'y a pas de grand honneur à ceux qui ont peut-être travaillé silencieusement, qui n'ont jamais reçu beaucoup d'honneur dans cette vie, mais qui ont tout de même travaillé fidèlement pour enseigner les autres dans la justice. Ils brilleront comme des étoiles. Enfin, la Bible dit que c'est intelligent, parce que c'est durable. Bah, toutes les gloires de ce monde, qu'est-ce que ça donne? Mercredi, nous avons étudié la vie d'Alexandre le Grand, un petit peu. Et Alexandre le Grand, certes, il a gagné le monde, mais il a perdu son âme. Peut-être nous allons perdre quelques opportunités que le monde estime sont très importantes. Qu'importe, nous gagnons beaucoup plus. Et c'est donc bien intelligent. Verset 4, Daniel tient secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors lorsqu'il entend ça, ça me parle. Tout le monde ne partage pas, certes, notre exégèse, notre méthodologie d'interprétation des Écritures. Il y a beaucoup qui pensent que tout est déjà accompli dans le passé. Il y a d'autres aussi qui disent que toute parole prophétie est plutôt d'interprétation spirituelle. Et pour ceux qui ne partagent pas notre vision, qui est une interprétation historique, grammaticale, littérale, une de leurs arguments, c'est que cette méthode d'interprétation n'est arrivée qu'avant le 19e siècle, ils disent. Mais c'est faux. Non, c'est faux parce que, en fait, parmi les plus anciens interpréteurs, commentateurs de la prophétie dans l'Église, étaient justement ceux qui interprétaient, essayaient d'interpréter la Bible de façon historique, grammaticale et littérale. Alors, pendant longtemps, l'Église a mis à côté ce point de vue en préférence de cette interprétation allégorique ou spirituelle. Mais c'est vrai que dans le 19e siècle, c'est là où les gens, du coup, ils se sont beaucoup plus intéressés dans le sens littéral. Et du coup, ça s'est bien développé plus à partir de cette date-là que dans tout le temps avant. Mais est-ce que ce n'est pas normal, puisque Daniel vient de dire, en fait, ce n'est pas Daniel, c'est l'ange qui dit à Daniel que la connaissance augmentera à la fin des jours. Oui, on peut parler de la technologie, mais est-ce que la technologie et la science est ce qui est évoqué dans ce texte? Non. On parle des fins des choses, la prophétie. Donc je dirais que si la connaissance augmente, c'est peut-être parce que nous sommes à la porte des derniers jours. On dit à Daniel que c'est avec le temps que la connaissance de ces prophéties va augmenter. Et surtout, quand ça arrive, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on comprend beaucoup. Mais on ne comprend pas tous. C'est un petit peu comme Google Maps sur l'Internet. Vous tapez une adresse et puis vous partez dans l'espace. Vous avez l'adresse, donc vous savez où ça va terminer. Et puis, ça commence à aller plus près jusqu'à ce que vous voyez donc la Terre et puis le continent et puis le pays et puis peut-être même la région et puis jusqu'à ce que vous arrivez à l'adresse même. Et vous voyez beaucoup mieux. Je crois que c'est la même chose. Je crois que lorsque les événements vont arriver, nous devrons peut-être même reformuler certaines de nos idées. C'est pourquoi on reste quand même prudent en attendant. Parce que, selon 2 Pierre 1:20, aucune prophétie ne peut être l'interprétation privée. Et ça, c'est pourquoi nous ne courbons jamais l'Écriture à nos idées. Nous courbons toujours nos idées devant l'Écriture. Et puis, il arrive des événements, comme Lucas a partagé avec nous. C'est l'Euphrate qui est en plein dessèchement. Et c'est tellement frappant que même le New York Times, le 13 juillet 2009, a écrit un article en citant le livre d'Apocalypse. Parce que c'est tellement évident. Ça arrive parfois. Et nous nous réjouissons. Verset 5. Et moi, Daniel, excuse-moi, nous ne réjouissons pas de dessèchement de l'Euphrate. Nous réjouissons que l'homme avoue qu'il y a un Dieu dans les cieux et qu'il garde sa parole. Verset 5. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva les cieux, sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne comprenais pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? On revient donc vers les anges. Et c'est par ce passage-là que nous comprenons que Daniel parle à plusieurs. C'est comme, si vous voulez, dans un film où le caméra commence à reculer et puis nous voyons toute la scène. C'est pour ça que c'était un peu confus. Nous voyons mieux que celui qui était en lin était effectivement Jésus, comme on a dit le dimanche dernier. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus des autres. Il est un peu à part et c'est le Seigneur qui a toutes les informations. C'est normal. Et Daniel l'appelle finalement Seigneur. Et ça, avec toutes les autres choses. Alors, c'est intéressant que ni Daniel, ni les anges ne comprennent pas. Et quelque part, je suis un peu comme content. Parce que, aussi, il y a ces passages où je ne comprends pas. Et si Daniel n'a pas compris non plus. Mais heureusement, il a quand même demandé. Les anges, en fait, demandent avant lui. Les anges sont contents. Est-ce que vous savez que les anges, ils voulaient savoir ce qui se passe? Ils sont intéressés par les affaires des hommes? Oui, tournez en 1 Pierre 1, verset 20. Excuse-moi, 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs des choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges voulaient savoir, nous pensons à ce que Jésus a dit. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, même pas le Fils, mais c'est le Père qui le sait, l'heure. Mais les anges, ils sont curieux, comme nous. Et avec ceci en tête, nous réalisons à quel point nous sommes quand même un peuple béni en Christ. Ben, regardez ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Tout ce que Paul a écrit, Pierre, et aussi l'Apocalypse. Nous avons plus de révélations que Daniel. En quelque sorte, c'est aussi un signe de combien il nous aime. Il veut que nous le connaissions mieux. Sinon, pourquoi écrire tellement de livres? C'est pour nous. Et en ce qui concerne le temps, il y a encore deux observations que j'aimerais faire. Comme il a dit, ça serait lorsque ce peuple saint sera entièrement brisé. Ce peuple saint, c'est bien sûr Israël. La fin ne vient qu'après qu'il se fatigue tellement qu'il se tourne vers Christ, comme cette prophétie que nous avons lue en Zacharie 12, où ils reconnaissent celui qui l'ont percé et qui revient vers lui comme sur un fils unique qui pleure amèrement. Mon ami Josué Turnil de Juifs pour Jésus, il m'a dit que, en fait, un rabbin dans le Talmud a écrit en ce qui concerne Daniel qu'il ne faut pas chercher trop à voir ce que ça veut dire ces différentes semaines et ces différentes prophéties parce que si on le fait, on va réaliser que le Messie n'est pas encore venu. En fait, ce qu'il veut dire par ça, c'est qu'il va réaliser que c'est Jésus le Messie, et donc si on ne veut pas reconnaître que Jésus est le Messie, ben, il y aura autre chose. on va penser qu'il n'est pas venu. Mais c'est parce que Jésus est le seul qui est l'accomplissement de ces choses. Il n'y a personne qui puisse remplir ces prophéties parce qu'il n'y a personne pour qui ces prophéties ont été annoncées. Mais il résiste encore. Il y en a certains, pas tous, mais il y en a la majorité. Et Jésus a dit, en Jérusalem, le jour de son entrée triomphale, que vous ne me verrez plus avant que vous ne dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, en parlant de leur repentance. Et cette histoire de temps n'est pas très clair. Même pour Daniel, lorsqu'on dit temps, des temps, moitié d'un temps, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'aime beaucoup que Daniel était aussi un peu confus. Une étude approfondie de cette terminologie nous aide à voir, et heureusement il y avait beaucoup d'experts qui ont bien travaillé là-dessus, et il paraît que la seule mesure de temps qui marche bien avec ça, c'est un an. Donc, lorsqu'il dit un an, c'est donc un temps, c'est un an. Des temps, c'est donc deux ans. Et un moitié, bon, c'est un moitié d'une année. Et est-ce que ça ne colle pas avec d'autres passages dans l'Écriture? Bien sûr. Il y a la petite corne en Daniel 7, verset 25, qui a le pouvoir sur les saints pendant 3 ans et demi. Ou bien, il y a en plein milieu de ces 7 ans que l'Antéchrist, après avoir fait l'abomination de la désolation, Et il y aura cette destruction en Daniel 9, verset 27. Et la moitié de 7, ça fait 3 ans et demi. Eh bien, en Apocalypse 12, verset 14, nous voyons aussi que l'Antéchrist, il a ce pouvoir pendant 3 ans et demi. Mais toujours à partir de cette abomination. Là où il entre dans le temple selon 2 Thessaloniciens 2 et il s'assoit sur le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Verset 9 de chapitre 2 en Daniel. Il répandit. Donc c'est l'homme vêtu en vin. Oh, excuse-moi. C'est l'homme vêtu en lin. Donc Jésus. Va Daniel. Car ses paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et prouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront été intelligents ou ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Je trouve intéressant que le Seigneur renvoie Daniel chez lui. Il y a des mystères que Dieu garde pour lui. Et nous ne sommes pas permis de les connaître. C'est pourquoi il faut regarder ces choses avec beaucoup de respect. Alors, il faut garder ces choses avec beaucoup de respect. Nous ne pouvons pas être trop dogmatiques sur certaines choses, sur l'actualité. Surtout pas lorsque ça change. Et souvent, on ne sait pas quel point de vue écouter dans les médias, ces choses sont parfois difficiles à savoir. Et puis, il y a des événements tellement évidents, comme on a dit tout à l'heure, aussi comme le 14 mai 1948, le jour où Israël est redevenu une nation. Dieu, il révélera les choses qu'il le veut, comme dit Deutéronome 29:29. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à l'homme. Finalement, il ne peut y avoir que deux réactions face à la révélation biblique. Il y a la foi, il y a la moquerie. Il doit rentrer, donc, chez lui. Il va avoir des moqueurs, mais il va instruire ceux qui veulent bien écouter. Et puis, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur dont nous avons déjà parlé là. Il y aura 1290 jours. Donc c'est 3 ans et demi et encore quelques-uns de plus. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi? Marche vers ta fin et tu reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin de tes jours, à la fin des jours. Encore quelques précisions. Le moment où le temple sera affranchi et méprisé par l'Antéchrist, il n'y aura que donc ces 3 ans et demi à peu près. Daniel, il prédit le temps, n'est-ce pas, de l'arrivée de Jésus. Il prédit aussi son retour. Mais que veut dire cette verset? Personne ne sait ni le jour ni l'heure. De toute façon, les impies, ben, ils s'en fichent. Ils ne seront pas au courant. Mais encore plus, nous revenons sur 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Lorsque l'archange descend du ciel avec sa trompette et Christ... Il revient pour son Église, l'enlèvement de l'Église, qui peut se passer à n'importe moment. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces jours supplémentaires? On ne sait pas 100% pourquoi il y a cette dizaine de jours de plus. Mais la meilleure explication que j'ai vue, c'est pour le temps que Jésus revient, fait le nettoyage, il réorganise le royaume, ils mettent les choses en ordre. Puis, Selon Matthieu 25, verset 31, il juge les brebis et les boucs, ceux qui vont entrer dans le royaume et ceux qui vont être écartés. Enfin, je crois que le message est assez simple. C'est le même message qu'il donne à Daniel. Il dit, ne vous rendez pas. Daniel, marche vers ta fin et tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ne vous rendez pas. Nous avons tous une vie remplie de bonnes œuvres préparées d'avance par notre Dieu devant nous. Alors marchons dans la voie que Dieu a préparée pour nous. Daniel devait rentrer chez lui parce que son parcours, son cheminement arrivait à sa fin. Et puis, il est aujourd'hui avec Dieu. Or pour nous, tant que nous vivons sur terre, nous avançons vers notre but céleste en Christ. Et avec cette étude de Daniel en tête, je crois que maintenant, nous serons un peu mieux là où on va. Et donc, nous terminons avec un verset du livre prochain que nous allons étudier à partir de la semaine prochaine. C'est en Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.